Elle est toute seule. Et je ne cababille.
Et nous commençons d'abord avec les titres de ces journaux. Des voix discordantes parmi les vice-présidents de la République qui ont été reçus ces dimanches par la délégation du Conseil de sécurité à Kinshasa. La transition marche bien et qu'il ne faut pas écouter les prophètes des malheurs, affirme par exemple Yerodia Abdoulaye Ndombassi. Il y a des problèmes liés à la réforme de la police et de l'armée, la loi électorale ou les référendums, affirme pour sa part Azarias Roubero. Tous les détails dans ces journaux. Un ravin d'au moins 6 mètres de large en passe d'engloutir la salle d'opération de l'hôpital général de référence des Kalemi dans le Nord Katanga. C'est la conséquence des pluies torrentielles des jeudi et vendredi derniers qui se sont abattues dans cette île du Nord Katanga. Et puis nous parlerons de cette nouvelle formule d'octroi de crédit à qui sans gagner, appelée crédit épargne. Cette formule prend corps à partir de la session organisée par le Bureau catholique de développement à l'intention des 60 femmes exerçant le petit commerce dans le chef-lieu de la province orientale. Bonsoir à tous. La marche de la transition et les processus électoraux en cours en RD Congo ont dominé les entretiens que la mission du Conseil de sécurité des Nations Unies a eu ce dimanche au Grand Hôtel Kinshasa avec certains acteurs politiques congolais. Pour le vice-président de la République en charge de la reconstruction, la transition marche bien. Il ne faudrait donc pas qu'elle soit troublée par ce que Yerodia Abdoulaye Ndombassi a qualifié des fatwas de certains ayatollahs. Les conseils de sécurité ne devraient pas faire attention à ces fatwas. Par contre, Yerodia Ndombassi a demandé à ses interlocuteurs que les conseils continuent à soutenir les processus en cours. Discours presque identique du vice-président en charge de la commission socio-culturelle, Arthur Zaïdi Ngoma, tout en reconnaissant les difficultés sécuritaires dans l'est de la RD Congo, a demandé au Conseil de sécurité de consolider les choses en cours car les processus, dit-il, abordent le dernier virage. Propos tout à fait différents de la bouche de Azarias Roubero, le vice-président chargé de la commission politique, défense et sécurité a évoqué avec ses interlocuteurs les problèmes liés à la réforme de la police et de l'armée, la loi électorale, le référendum, le système électoral ainsi que les élections de mars prochain. Azarias Roubero a dit au Conseil de sécurité la nécessité de trouver une issue au problème de l'UDPS. On l'écoute.
Je n'ai pas manqué de mentionner sur ce chapitre des élections l'importance cardinale à inclure l'UDPS dans les processus compte tenu des conséquences liées ou à l'exclusion ou à la non-implication au lendemain des élections, on pourrait connaître et des contestations et même l'instabilité. Nous avons en même temps échangé sur d'autres questions, notamment celles liées à la bonne gouvernance, à la lutte contre l'impunité. J'ai aussi donné mon point de vue par rapport à la marche de la transition vis-à-vis des questions donc de lutte contre la corruption ou de lutte contre l'impunité.
Le vice-président chargé des questions économico-financières a évoqué avec la délégation du Conseil de sécurité l'intégration de l'armée qui s'est fait, selon lui, de manière lente. Il a aussi évoqué la loi électorale et la présence des FDLR dans l'est de la RD Congo. Jean-Pierre Bemba a surtout souligné les difficultés qui demeurent pour l'organisation des élections équitables dans certaines provinces, notamment dans l'Équateur et dans les Bandundu. On l'écoute.
Je leur expliquais un peu toutes les difficultés que nous rencontrions sur ce processus. Les problèmes de logistique, les problèmes techniques sur la manipulation des kits, le non-déploiement de tous les kits également, bon, des problèmes de salaire qui ne sont pas payés. Je leur ai fait part en tout cas des inquiétudes et surtout je leur ai rappelé que le processus électoral a pour objectif de pouvoir réconcilier les Congolais entre eux. Il ne faudrait pas qu'une bonne partie de la population ne participe pas à ce processus au risque que cette réconciliation ne puisse pas s'opérer. Ils m'ont promis, en tout cas, de pouvoir ménager aucun effort pour permettre que tous les Congolais de l'arrière-pays, du Bandundu, de l'Équateur, les deux dernières provinces qui restent, puissent être traités d'une manière égalitaire par rapport aux autres provinces.
Voilà, c'est un dossier signé par Léonard Moulamba. Notez qu'avant de quitter Kinshasa demain lundi, la mission du Conseil de sécurité conduite par l'ambassadeur Jean-Marc de la Sablière, ambassadeur de France, donc à l'ONU, aura des entretiens avec le président de la République, Joseph Kabila. La commission électorale indépendante a franchi hier, vous le savez, le cap de 20 millions d'enrôlés dans tout le pays. À côté de cette remarquable percée, il y a des problèmes techniques très sérieux qui sont signalés dans les Bandundu et l'Équateur, notamment les nombres insuffisants des centres d'inscription. Les deux provinces ont commencé les opérations d'enrôlement et d'identification il y a juste un mois. Des voix s'élèvent parmi les acteurs politiques pour dénoncer la lenteur dans l'enregistrement des électeurs à quelques 6 semaines du référendum constitutionnel. Parmi ces voix, celles d'Albert Mukulubundu et Didas Pembe qui se sont récemment rendus dans les Bandundu pour se faire enrôler. On écoute Didas Pembe, vice-président de l'UNADEC. Il a été joint par Donna Madimba.
Au total, tout le territoire de Mouchi, pour un peu près de 140 à 150 000 habitants, nous avons 16 centres. Et c'est très peu. Ces 16 centres, je crois que nous n'avons même pas une trentaine d'ordinateurs. Alors je demande à ce qu'on puisse tripler ou quadrupler la capacité d'enregistrement et éventuellement demander aux chefs de localité qui savent là où se situe le village le plus lointain, pour qu'eux-mêmes prennent en charge le déplacement du matériel de telle sorte que la population soit satisfaite.
La commission électorale indépendante reconnaît un certain nombre des difficultés rencontrées dans ces deux provinces, mais promet d'y remédier au courant de la semaine qui commence. Le rapporteur de la CEI, Dieudonné Mirimo, est interrogé par Donna Madimba.
Pour l'Équateur, il y a une centaine de centres qui restent à ouvrir. Le Bandundu, il y a autour de 200 centres, 250 centres qui restent à ouvrir. Mais la semaine prochaine, toute la logistique sera déployée avec la MONUC et le FARDC pour pouvoir déployer le maximum possible et ouvrir le reste des centres de telle manière que nous puissions rester dans les temps. Comme vous le savez, nous avons un calendrier contraignant du 18 décembre prévu pour le référendum est déjà proche.
Et est-ce que ce n'est pas des promesses pour contenter la population? Est-ce que vous avez vraiment les moyens de les réaliser, d'ouvrir tous ces centres-là le plus rapidement possible maintenant?
De toutes les façons, je crois qu'on ne va pas faire de polémique là-dessus. Ils n'ont qu'à nous attendre sur le terrain. Ils vont constater que les choses vont s'améliorer et les statistiques vont également monter sensiblement dans les deux provinces. C'est ce qui peut prouver à suffisance que ce que je viens de dire va se réaliser.
Encore un cas de meurtre signalé à Kinshasa. Alexandre Mbouyi Chibambe, membre du comité national de l'UDPS, a été retrouvé mort samedi dans sa voiture à quelques mètres du monument à Patrice Emery Lumumba. L'UDPS, le parti de Kyen Tshisekedi, dénonce ce qu'il qualifie d'assassinat politique. Il a déposé une plainte au parquet de l'UMT qui doit faire un rapport circonstancié. On écoute Maître Jean-Joseph Mukendi, conseiller politique de Kyen Tshisekedi, joint par Freddy Lufuluabo.
Pendant que nous étions entrés encore sous le choc de l'assassinat ignoble du couple Ngike, notre combattant a été exécuté après avoir été torturé dans les circonstances ignobles. Les premiers éléments et les photos montrent qu'il a été torturé aux brûlures, au poignet, il a été étranglé et après toutes sortes de tortures indescriptible que seule l'autopsie pourra déterminer et nous pensons que ce crime ne peut pas rester impuni. Ce qui était Alexandre Mbouyi Chibambe, c'est l'homme qui tous les soirs tenait compagnie au président national, son sobriquet, ses chapiteaux, c'est l'homme qui présidait les rencontres et de sorte qu'il y a un vide qui a été créé. Nous sommes censés aller vers des élections crédibles. Il n'est pas concevable que des personnes procède à l'exécution d'adversaires politiques.
Et il est 18h08 à Kinshasa et c'est Radio Kapi que vous écoutez. Province orientale, la justice civile comme militaire s'active dans les districts de l'Ituri et du Haut-Uele. Seulement voilà, il se pose un sérieux problème des carences des cellules pour les condamner. Cette absence des prisons est dénoncée par le président du tribunal militaire des garnisons de Bounia dans le nord-est du pays. Il affirme que ce problème est à la base des évasions des criminels tant militaires que civils, ce qui représente un danger permanent pour les populations civiles et les magistrats. Le major Innocent Mayembe est au micro d'Innocent Il Olenga à Bounia.
Le système d'incarcération n'est pas bien organisé. À Anrou, il y a un condamné à mort. Il avait réussi à s'évader de la prison. Deux d'ailleurs, un capitaine et un adjudant. À Ouacha, l'homme que nous venons de condamner dernièrement à la peine capitale avait pu s'évader avant d'être remis au cachot. À Iziro, il y a quatre personnes qui ont été condamnées par défaut parce qu'elles avaient aussi réussi à s'évader avant leur condamnation. J'ai déjà eu moi-même à rencontrer des prévenus sur la route qui me saluent parce que tout simplement, ils peuvent facilement sortir de leur case. Il y a des grands criminels qui sont condamnés là-bas. Le souhait aurait été que ces condamnés soient déplacés vers des lieux de détention plus sûrs. Vous comprenez qu'il y a donc un danger pour la population, mais aussi pour les magistrats, de se retrouver sur la route avec des condamnés.
Dans l'émaniement des difficultés de sortie de certains Maïmaï qui sont dans les forêts du territoire de Lubutu se posent avec acuité. Ils demandent à la hiérarchie militaire une assistance sur le plan logistique et leur prise en charge. Ces Maïmaï veulent quitter la brousse pour rejoindre leurs anciennes factions pour qu'ensemble ils puissent aller au centre de brassage des Kitona d'Alba Congo. Le colonel Vital André est commandant de brigade Maïmaï Simba à la 7e région militaire qui les a précédés, parle des conditions pour la sortie de ces Maïmaï estimés à plus ou moins 2500 éléments avec leurs armes. Il est au micro de Mathieu Ilunga Chambouyou Monechebe.
Ils sont sous le commandement de la CHFM, le major Mazelo, et c'est lui qui vient de me dire qu'il est prêt pour quitter. Mais le problème qui est là, on cherche comment on va les encadrer. S'il arrive ici, si on pourrait bien les encadrer, ils sont prêts pour quitter et qu'ils soient satisfaits dans la période de transition avec leur grade de bravoure. Ils ont là-bas à peu près de 2500 hommes dans la brousse. C'est trois bataillons pour qu'ils puissent rejoindre, s'intégrer à la force gouvernementale. Parce que d'autres troupes sont allées qui s'en gagnent avec les colonel Kayobo et lieutenant-colonel Kachimouk. Et moi, je suis resté avec d'autres troupes qui sont ici et mon ancego, Pugna, lieutenant-colonel Kadimawashung, c'est là que je vais laisser avec d'autres éléments.
Dans le Nord Katanga, un ravin d'au moins 6 mètres de large menace la salle d'opération de l'hôpital général de référence des Kalemi. La pluie torrentielle de jeudi et vendredi dernier a provoqué un creux d'un mètre de profondeur sur la route au bord de l'hôpital. La circulation des habitants du quartier de l'hôpital est perturbée. Le médecin directeur de l'hôpital, Dr Franck Bitilazi, s'en inquiète. Il est au micro de François-Xavier Nibé.
Si on ne prend pas de mesures d'urgence, cette route-là sera impraticable. La salle d'op aussi est presque dérangée avec l'érosion qui va se créer tout autour. On est en train de voir avec les utilisateurs de ces tronçons et nous-mêmes au niveau de l'hôpital, avec les jeunes du quartier et les services de l'État qui s'occupent des routes, et voir un peu comment on peut arranger ces problèmes. Les constructions anarchiques, et c'est ça même la cause de la provocation de ces ravins-là. Nous pensons que les services de cadastre et les autres services concernés peuvent nous aider d'abord à récupérer notre concession qui est envahie et puis à bien structurer les constructions.
Et puis en plus bref, au nord Kivu, dans ces territoires des Loubéros, Béni, les infirmiers réclament le paiement de la prime de risque jusqu'ici réservée aux seuls médecins. Dans une lettre au ministre de la Santé publique rédigée le 30 octobre dernier, mais remise ce samedi à la presse locale, les infirmiers réunis au sein de l'ANIC, Association des infirmiers du Congo Butembo, dénoncent la discrimination dont ils sont l'objet dans l'octroi de la prime de risque de la part du gouvernement de la transition. Ils disent que dans un mois, si cette situation n'est pas réglée, ils vont pouvoir se mettre en grève. Dans le Sud Kivu, 900 000 dollars pour la coopération allemande. La GTS section du Congo a reçu cet argent du gouvernement allemand. Et c'est pour assister les Congolais rapatriés de l'étranger. L'argent servira notamment à la reconstruction des routes sur les axes de Kamanyola, Uvira et Fizibaraka dans le sud de la province. Ce financement servira aussi à reconstruire des écoles, des marchés et des centres hospitaliers. Plus de 1000 ménages recevront des semences pour se nourrir. Des précisions avec Jean Bosco Mouemé de la GTS ICG à Bukavu, des propos recueillis par Delphine Amoto.
À Baraka, nous allons réhabiliter les centres de santé de Katanga, construire l'école Akie Eto. À Uvira, nous allons construire l'Institut Ndunda et le marché de Mulongwe. À Kamanyola, nous allons réhabiliter les centres hospitaliers et l'école primaire Kanchala. Sinon, il y a aussi 70,5 km de routes à réhabiliter qui ont plus ou moins 6 ponts. Nous avions pensé soutenir la mise en valeur des marais. Au niveau d'Ouvira, 50 étangs piscicoles vont être aménagés avec bien sûr la stratégie de mettre une dizaine d'étangs pilotes présentés comme des étangs expérimentaux.
Et puis, je vous disais en titre clôture, samedi, à Kisangani, d'une formation sur une nouvelle formule d'octroi des crédits appelée Crédit Épargne, session organisée par le Bureau catholique de développement à l'intention des 60 femmes exerçant le petit commerce. Explication Anselme Massoua à Kisangani.
Pendant 4 jours, la formation était centrée sur les enseignements relatifs à l'élaboration d'une fiche de demande de crédit, la fiche de remboursement et d'épargne ainsi que la tenue du carnet de gestion. Le crédit octroyé va de 50 à 150 dollars par trimestre compte tenu du volume d'activité exercée. Selon le bureau diocésain de développement, cet octroi vise un épanouissement permanent des bénéficiaires. Jean-Pierre Loké-Loké, directeur du bureau diocésain de développement.
La première des choses pour les BDD, c'est faire pénétrer la culture du crédit, la culture de l'épargne. C'est-à-dire que chaque maman qui reçoit l'argent au BDD devrait épargner les 10% de cet argent. La maman puisse savoir que l'argent qu'elle reçoit n'est pas un don, c'est un argent qu'elle est obligée de rembourser.
Le crédit obtenu est remboursable par semaine échelonnée sur 4 mois au taux de 3,5% d'intérêt. Le jour de remboursement, le bénéficiaire verse obligatoirement son épargne au BDD. Un système bien apprécié par les bénéficiaires. Ce système va beaucoup nous aider parce que souvent nous n'épargnons pas, nous vivons au jour le jour. Il est nécessaire que quelqu'un ait l'épargne. C'est une nouvelle expérience, c'est très bien pour nous, nous allons la suivre. Pour éviter la faillite de cette activité, le bureau de soutien de développement compte former dans les tout prochains jours des agents de suivi de gestion de crédit au profit de ses bénéficiaires. Kisangani, Anselme Maswa, Radio Okapi.
Ainsi va le Congo, il est 18h16 à Kinshasa et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.